être un peu rasoir. Parce que quand on lit ça tout seul, on se demande toujours le rapport que ça peut avoir avec notre vie comme des chrétiens dans un monde qui rejette Dieu à deux, trois mois maintenant de l'an 2000. Qu'est-ce que ça peut bien avoir à faire? Mais j'espère que maintenant vous avez compris qu'en fait ce récit authentique du déplacement des juifs dans le désert avait été écrit pour notre bénéfice. C'est Paul qui nous le rappelle dans 1 Corinthiens 10. Paul nous dit que tous ces Israélites qui marchaient dans le désert, qui se sont rebellés, qui se sont soumis, qui ont vécu une vie de tribulation, ce sont, nous dit dans 1 Corinthiens 10, 6, ce sont pour nous des exemples, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et un peu plus loin, au verset 11 de 1 Corinthiens 10, il leur dit « Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. » C'est vrai que la fin des siècles, quelque part, c'est bien sûr, ça fait référence à la fin du monde, mais on est de plus en plus, on s'en rapproche de plus en plus, ça ne sera peut-être pas le soir de l'an 2000. Il risque d'y avoir pas mal de problèmes, on le sait, avec les problèmes d'ordinateur. Mais tout ça, c'est écrit à titre d'exemple. Et donc, lorsqu'on a cette optique de lire ce passage, ce livre des Nombres, en cherchant des leçons pour aujourd'hui, alors ça devient une lecture tout à fait passionnante. Et on voit en même temps l'harmonie de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Pour moi, quand j'avais découvert cette harmonie, ça avait été comme une preuve que la Bible ne pouvait pas avoir été écrite par les hommes. Il y a, lorsqu'on s'en souvient que les livres qui composent la Bible ont été écrits sur une période de près de 1500 ans, par plus de 40 auteurs, de tous les milieux sociaux possibles. Il y avait des rois, il y avait des bergers, il y avait des théologiens, il y avait vraiment une grande variété. Et on voit en même temps, on sait que ça a été écrit en trois langues, l'hébreu et le grec principalement, mais aussi l'araméen. Et on voit cette harmonie incroyable entre l'Ancien et le Nouveau, comment Jésus est caché dans l'Ancien Testament, comment il est révélé dans le Nouveau Testament. Et on en parlait mercredi dernier, toutes les Écritures parlent de Christ. Et c'est merveilleux de lire la parole en le trouvant, en le cherchant. Prions donc que le Seigneur ouvre sa parole pour que nous voyions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps d'étude de ta parole. Merci parce qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et Seigneur, tu viens par ton Esprit Saint rendre vivante cette parole. Elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Elle est capable de nous reprendre, de nous exhorter, de nous encourager, de nous instruire, de nous équiper pour toute œuvre bonne. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons qu'elle accomplisse dans nos cœurs ce matin. Qu'elle nous reprenne, qu'elle nous exhorte, qu'elle nous bénisse aussi. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Le livre des Nombres, c'est donc l'histoire du déplacement, on pourrait dire du déménagement de 2 à 3 millions de personnes dans des conditions très difficiles, mais aussi dans un ordre absolument parfait. On a vu au chapitre 1 d'abord le recensement des hommes qui étaient en âge de combattre. On a vu qu'il y avait près de 600 000 hommes qui étaient recensés dans les tribus d'Israël. Mais ça, on le verra plus tard, on l'avait déjà annoncé, qu'à cause de leur incrédulité, sur ces 600 000 hommes qui étaient capables, équipés pour se battre, deux seulement vont un jour se battre. Le chapitre 2 nous avait montré l'ordre très précis de l'ordonnancement du camp des Israélites autour du tabernacle. Au chapitre 3, nous avions vu le recensement des Lévites, ceux qui étaient chargés de s'occuper du service du tabernacle. Et parmi les Lévites, il y avait un petit groupe qui venait de la famille de Aaron et de Moïse, qui étaient les prêtres, qui eux seuls pouvaient entrer et célébrer le culte à l'Éternel et offrir des sacrifices. Au chapitre 4, nous avons vu en détail, toujours cette précision dans le détail de Dieu, le service et la charge de chacun des Lévites. Il y avait près de 8000 personnes et chacun connaissait exactement son travail. Et bien sûr, nous avons fait le parallèle entre ce service et le culte que le chrétien doit rendre au Seigneur dans ce monde. On a vu que le désert, c'était un type, on dit en langage théologien, ça veut dire simplement une illustration, une représentation spirituelle du monde, une représentation réelle d'une réalité spirituelle qui est celle du monde qui nous entoure. Le monde, c'est pas seulement la terre. La terre est bonne, Dieu l'a créée. Le monde, c'est, Paul en fait référence à ce système de valeurs qui rejette Dieu, qui ne veut rien savoir de Dieu. Et c'est ce que nous voyons tout autour de nous. Tout au long de la journée, nous sommes bombardés de messages, que ce soit par les conversations que nous avons avec les gens qui nous entourent, que ce soit avec la publicité, que ce soit avec les médias, avec les chansons. C'est vous avez le droit à plus, vous avez tous les droits. Vous n'avez aucun devoir pratiquement, mais tout vous est dû. Et chacun fait, comme le dit le livre des juges, à la fin du livre des juges, chacun faisait ce que bon lui semblait. Et on n'a pas un désert avec du sable et des rochers, des serpents, mais on a ce monde encore plus difficile de valeurs qui rejettent Dieu complètement. L'enseignement à l'école, la philosophie. J'ouvrais le livre de philosophie de Tonio qui est en terminale cette année. Il y a à peu près 350 pages et il y a une page pour parler de la Bible. Et encore, c'est pour en parler avec des erreurs, en disant que le travail avait été donné à l'homme comme une punition, ce qui est une complète aberration, puisque l'homme n'a chuté qu'après avoir été dans le jardin, alors que Dieu avait déjà donné du travail à l'homme. Et on va essayer d'inculquer, de lui mettre dans la tête des valeurs comme l'existentialisme, que rien ne compte, qu'on ait un accident cosmique. Et c'est ça le monde, c'est ça le système de valeurs qui nous entoure. Et c'est pour ça que nous sommes comme un camp retranché quelque part. Nous sommes l'Église, nous sommes l'ensemble de ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur, qui ont réalisé leurs besoins de Dieu et qui veulent vivre pour lui et le servir. Nous ne sommes que des pèlerins. Pour ceux d'entre nous qui sont plus âgés, on s'aperçoit chaque jour qui passe que le temps passe très vite. Les années, les rentrées scolaires, les nouvelles années, ça va très très vite. Et si on s'arrête une seconde pour réfléchir, on se dit, mais où on va? On se rappelle peut-être qu'est-ce qu'on faisait il y a 30 ans et on se dit, où est-ce que je serai dans 30 ans? Et puis on dit, dans 30 ans, tiens, j'aurai 80, ouais, je serai peut-être plus là. Où serai-je? La question, c'est pas seulement pour les plus anciens, c'est pour tous. Dans 50 ans, dans 100 ans, où serons-nous tous? La Bible a des réponses. Et aujourd'hui, nous allons voir au chapitre 5 que ce camp qui avait été si bien ordonnancé par le Seigneur, ce camp devait être purifié. On va lire au chapitre 5. Les versets 1 à 4 pour commencer. C'est page 140 pour la Bible à la colombe. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander une Bible. Voilà. Livre des Nombres, chapitre 5, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit « Ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tous lépreux, quiconque a une gonorrhée ou quiconque est impur à cause d'un mort. Homme ou femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne rendent pas impur le camp au milieu duquel je demeure. Les Israélites firent ainsi. Ils les renvoyèrent hors du camp. Les Israélites firent ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Donc ici, on voit que l'Éternel demande à Moïse d'exclure du camp tous ceux qui sont en état d'impureté. La religion juive nous apprend que pour entrer en communion avec Dieu, il est nécessaire d'être dans un état de pureté. Et pour pouvoir participer au culte, prier, louer le Seigneur, on devait être certain d'être pur. Il y avait ce qu'on appelait une impureté du point de vue rituel, une impureté qu'on pouvait contracter en mangeant certains aliments, en touchant certains objets, en attrapant, contractant certaines maladies. Et puis ça, c'était un point de vue rituel, mais du point de vue moral aussi, si on désobéissait aux exigences de Dieu, alors on devenait impur, on n'avait pas le droit, on n'avait même pas la... Il n'était pas du tout recommandé de venir en la présence de Dieu. Et on voit que l'Éternel demande à Moïse d'appliquer ces mesures, verset 3, afin qu'il ne rende pas impur le camp. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas rendre impur le camp? Des fois, chez les chrétiens, il y a une préoccupation des choses extérieures. On va dire, par exemple, les jeunes filles ne devraient pas être en pantalon ici. Pantalon, c'est un vêtement masculin. Ou on ne devrait pas porter de maquillage. Ou on devrait avoir un voile sur la tête pour prier. On sait que on peut s'attacher tellement aux choses extérieures, à la notion d'être respectable, de maintenir une bonne réputation. On peut dire, on veut quand même donner une bonne image de l'Église auprès de l'hôtel, auprès de la réception, auprès des clients. Alors on va faire un certain nombre de choses pour ne pas abîmer une image qu'on s'est constituée dans la tête de ce que doit être un bon chrétien, une bonne chrétienne. Est-ce que vous croyez que c'était pour veiller à leur réputation auprès des tribus qu'ils pouvaient rencontrer, les autres tribus cananéennes, les autres peuples? Est-ce qu'ils avaient le souci de leur respectabilité? Est-ce que le Seigneur leur demandait de faire attention, de ne pas froisser, de ne pas donner une mauvaise image? Non, le Seigneur leur dit, parce que je suis au milieu de vous. Vous devez être pur parce que je suis au milieu de vous. L'endroit où demeure le très saint doit être saint. Ça nous rappelle l'apôtre Paul qui nous disait dans 1 Corinthiens, Corinthiens 3, 16 par exemple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, etc. Mais l'idée fondamentale, c'est que nous sommes la demeure de l'Esprit Saint, nous sommes la demeure de l'Éternel, et qu'en conséquence, nous devons être saints. C'est parce que Dieu est au milieu de son peuple que la sainteté n'est pas une option. C'est une exigence absolue. Dans le livre du Lévitique, qui donnait les prescriptions pour les Lévites, les prêtres et les Lévites, Dieu a répété au moins, je crois, 5 ou 6 fois, une demi-douzaine de fois, ces paroles: vous serez saints car je suis saint. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, Dieu nous demande d'être saints parce qu'il est saint et qu'on peut avoir de commerce, de communion avec lui que si nous passons par cette même sainteté. Mais quelque part aussi, lorsqu'il nous dit « Vous serez saints car je suis saint », c'est la bonne nouvelle, il va nous aider à être sanctifiés. Il va nous aider à être purs. C'est un thème, la sainteté devant l'Éternel, que l'on retrouve dans toute la Bible. David, par exemple, disait dans le psaume 89 « Dieu est terrible au grand conseil des saints, redoutable pour tous ceux qui l'environnent. Où la sainteté convient à ta maison, ô Éternel. Notre Dieu aussi est un feu dévorant. » C'est pas une option, c'est lorsque nous rencontrons Dieu vraiment, et nous le voyons dans toutes les rencontres relatées dans la Bible, il y a ce sentiment de notre indignité, de notre impureté. Vous vous souvenez, Ésaïe qui disait « Malheur à moi car je suis un homme indigne, mes lèvres sont impures. » Et l'auteur de la lettre aux Hébreux disait aussi qu'il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Je crois que nous devons demander au Seigneur de nous montrer la sainteté de Dieu. Quand nous voyons sa sainteté, alors nous avons un sentiment plus conscient de notre impureté devant lui, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actions, de nos mauvaises motivations. Alors, on a dit que l'Ancien Testament, c'était un peu écrit comme une BD. C'était des images très fortes qu'on pouvait garder dans la tête bien longtemps. C'était aussi une réalité, un récit réel des personnages vivants et réels de l'époque. Mais la façon dont les choses étaient décrites faisait qu'elles étaient très graphiques et très parlantes. Alors là, il est question des lépreux. Il faut envoyer du camp tous les lépreux. La lèpre, ce n'était pas seulement la maladie que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de lèpre. Ça représentait toutes les maladies de peau contagieuses, comme la gale et d'autres. Et lorsqu'on lit ce passage, on peut dire, mais votre Dieu était un Dieu cruel. Il mettait à la porte les malades, ceux qui avaient... des gonorrhées, qui avaient touché des morts, et il les excluait, c'est l'exclusion. Mais on sait en fait que avant même que Pasteur ait découvert le principe de transmission des médicaments, avant que Pasteur ait découvert les microbes et les germes qui transmettent les maladies, la Bible donnait déjà des conseils d'une grande vérité médical. Ce vieux livre, qui n'a rien à voir avec la vie moderne, parlait déjà des comment se protéger des maladies contagieuses. Et on sait que Dieu voulait assurer la pérennité du peuple juif parce que c'est par le peuple juif qu'il allait mener notre Rédempteur. On sait que le diable a tout fait pour s'attaquer à ce peuple juif. Mais Dieu avait donné des prescriptions pour que ce peuple juif soit en bonne santé, qu'il perdure et que le Sauveur puisse arriver par lui. Il y a des groupes de médecins qui font des grandes découvertes en médecine en analysant toutes les prescriptions relatives à l'hygiène, à la médecine que l'on trouve dans la Bible. Au départ, on ne sait pas pourquoi c'est dans la Bible. Il y a 500 ans, les gens se demandaient pourquoi il fallait exclure les gens qui avaient la maladie, la peste. Puis ils ont découvert que ça faisait du bien de ne pas rester à côté de ceux qui étaient pestiférés. Et donc on voit, il y avait déjà cet aspect très pratique de la parole de Dieu que nous avons vérifié près de des siècles plus tard. Mais aussi, nous savons que la lèpre, c'était un symbole, un type ou une préfiguration, une illustration d'une maladie contagieuse qui s'appelle le péché. Tous, nous avons cette maladie héritée de nos parents, mais tous aussi nous pouvons nous contaminer les uns les autres. Dans l'Église, il est facile de commencer à papoter ou à calomnier ou a semé la zizanie, la division. Il est facile de donner de mauvais exemples. Il est question de lèpre, lépreux, mais aussi ceux qui avaient une gonorrhée. Alors ça, c'est un terme, quand on lit ça tout seul, on dit, mais qu'est-ce que... De quoi il parle, là ? Alors c'est vrai que il s'agissait, le mot en hébreu, c'est tous ceux qui avaient un flux qui venait d'une infection. Ça pouvait être une infection des organes sexuels, ça pouvait être une plaie qui ne guérissait pas. Et là encore, ça avait une raison médicale bien, bien précise, c'était pour éviter la contamination, que la maladie ne s'étende par contamination, par contagion. Mais ça représentait ça, ceux qui ont une influence mauvaise, une influence contaminante sur l'entourage. Et puis, dernier cas, c'était ceux qui étaient impurs parce qu'ils avaient touché un mort. Impurs à cause d'un mort, c'est ceux qui avaient touché un cadavre. Alors, on sait, c'est vrai qu'à l'époque aussi, sans le savoir, ils se préservaient ainsi des dangers de contagion d'une maladie. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Encore une fois, toujours lire, en voyant ce que ça voulait dire à l'époque, comment d'abord voir ce que ça disait à l'époque, voir ce que ça dit aujourd'hui et comment je peux l'appliquer. Qu'est-ce que c'est que les morts aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'un mort ? Si on se tourne ensemble, si on lit ensemble Éphésiens, on va voir qui sont ces morts. Éphésiens 2, chapitre 1 à 7. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. C'est page 218 dans la Bible à la Colombe, dans le Nouveau Testament. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Les morts, ce sont les non-croyants. C'est pour ça que Jésus disait à Nicodème, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour voir le royaume de Dieu, il te faut naître de nouveau. Nous avons expliqué déjà que nous avons été créés en trois parties, un esprit, une âme, c'est-à-dire le domaine de la volonté, des émotions, et un corps physique, mais que le péché d'Adam a fait mourir notre esprit, et que lorsque nous naissons de la chair, nous sommes toujours morts de l'esprit. Et que tant que nous n'avons pas cette nouvelle naissance, nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu, parce qu'on ne les comprend que spirituellement. Et donc, les morts, c'est le monde qui nous entoure. C'est le monde qui est dirigé par le prince de ce monde, qui a été vaincu, mais qui continue de régner sur le monde. C'est un pouvoir usurpé, mais nier qu'il ne contrôle pas les puissances du monde, c'est se cacher les yeux, c'est ne pas regarder ce qui se passe autour de nous. Christ a remporté la victoire et il va revenir pour l'assurer et prendre tout le terrain. Alors, quelque part, ce passage, ça nous apprend que le chrétien doit être séparé du monde. Alors on se dit, c'est bien, alors on va rester entre nous. On va travailler dans des maisons chrétiennes. On va manger de la nourriture produite par des chrétiens. Non, non. Être séparé, ça ne veut pas dire ne pas avoir de contact avec eux. Être séparé, ça veut dire ne pas se laisser contaminer par le monde. Ça veut dire ne pas faire de compromis avec le monde non-croyant. On devrait être... Le plan de Dieu, c'est que nous les contaminions avec la bonne maladie de l'Évangile. On a dit que bien trop souvent, ils ont été vaccinés contre l'Évangile. Ils ont entendu parler d'une foi chrétienne faible et passéiste. Et c'est comme un micro-organisme qui a fait que lorsque la chose véritable vient à eux, ils la rejettent. Ils n'attrapent pas la bonne maladie de l'Évangile. Et nous vivons en ce moment dans une société où c'est le monde qui influence l'Église. Alors que ce devrait être l'inverse. L'Église devrait donner l'espoir au monde, devrait lui montrer. Et ça, on ne peut pas le faire en restant enfermé entre nos quatre murs. Pour ça, il faut parler à nos voisins, à nos amis, à nos parents. Il faut aller dans la rue, il faut être présent dans la cité. Mais on doit être séparé spirituellement, moralement. On ne doit pas embrasser les valeurs du monde. Mais ces valeurs font tellement... On a dit que notre chair est attirée par le monde que contrôle Satan. Ça met en relation nos trois ennemis. Satan utilise le monde et ses attraits pour attirer notre chair. Notre chair aime bien faire ce que le monde fait. Mais Dieu nous appelle à être séparés. Des passages, par exemple, 2 Corinthiens 6. Page 206 de Corinthiens 6, à partir du verset 14. Et ça parle de ne pas se marier avec des incroyants, de ne pas établir des associations, des entreprises avec des gens qui ne partagent pas vos valeurs fondamentales, sous peine d'avoir beaucoup de problèmes. Il est dit, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? C'est une représentation du mal. Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car encore une fois, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La contamination, c'est quelque chose d'insidieux. Il y a quelques jours, au Japon, il y a une réaction nucléaire qui a dégénéré dans le sens où quelqu'un a rajouté de l'uranium dans une réaction à coup de seau et ça déclenche une réaction en chaîne que les scientifiques ont eu du mal à stopper. Ils nous disent maintenant que tout est en ordre. Mais dès que la nouvelle a été répandue, on a demandé aux gens de rester enfermés chez eux, si tant est que ça puisse les protéger. Mais tout de suite, cette peur de la contagion. Et lorsqu'il s'agit de produits nucléaires, alors là, on a très peur. On va utiliser une cagoule et puis on va se doucher après pour toute une combinaison. Puis on va se doucher, on va passer dans des sas. Et quelque part, le Seigneur nous dit que le monde et son péché est encore plus dangereux. Donc, visuellement, des fois, vous pouvez prendre une douche avec la parole de Dieu en demandant à son esprit de vous laver, de vous transformer de l'intérieur, de renouveler vos pensées. Nos pensées sont tellement influençables par le monde. Le monde essaye de nous conformer dans son moule. Nous avons une vérité que le monde n'a pas, et c'est à nous d'influencer le monde. Ce passage aussi, quelque part, ça, on a dit que le camp, c'était une représentation de l'Église, l'Église avec un grand « et », l'Église universelle, qui a comme manifestation locale des assemblées locales, comme la nôtre. Et ce passage nous rappelle que les chrétiens ne doivent pas fermer les yeux sur le péché de leurs frères ou de leurs sœurs. Alors c'est vrai que tous nous sommes pécheurs par nature, et que si nous sommes acceptés par le Seigneur, c'est uniquement sur la base de sa grâce, de cette faveur que nous ne pouvons pas mériter. Et parce que bien souvent on réalise d'où nous venons, on se dit qu'on a quelque part, on n'a pas le droit de juger les autres chrétiens. Et il y a plusieurs passages qui semblent aller dans ce sens. Par exemple, si vous voulez regarder avec moi Matthieu 7. Ça paraît très, très, très clair et net. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Bon, ben, c'est le Seigneur qui parle, on pourrait s'arrêter là et dire on ne doit jamais juger. Il ajoute, c'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Et puis cette remarque bien connue, pourquoi votre... Et on va voir la petite bête sur l'œil du voisin. Et le Seigneur nous dit, occupe-toi d'abord de la poutre. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras, tu seras peut-être capable de voir comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc là, on voit que ôter la paille de l'œil de son frère n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Un autre passage, c'est dans Romains 2. Romains 2, 1, où Paul présente tous les peuples comme étant universellement pécheurs. Il montre que nous sommes tous affectés par cette maladie du péché. Et il dit, tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi tu juges, tu agis comme eux. Et puis il continue en comparant l'imperfection de notre jugement avec la perfection du jugement de Dieu qui connaît toutes choses, qui voit les choses cachées, qui connaît exactement les motivations, qui a la toute puissance pour faire appliquer ses décrets et les jugements qu'il va rendre. Et donc on se dit quelque part, c'est vrai que quand je juge, c'est comme si je pointe le doigt vers quelqu'un, mais il y en a trois qui pointent en retour vers moi et un autre qui pointe même vers le Seigneur. Donc il vaut mieux pas juger. Mais dans Matthieu 7, Jésus nous recommande aussi de nous garder des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Il nous dit pas, ne les jugez pas, ne dites pas que ce sont des loups. Il nous dit, gardez-vous. Comment se garder si on n'est pas capable d'apprécier, de juger? Et en fait, en tant que chrétiens, nous sommes responsables de juger la doctrine, la moralité de ceux qui veulent entrer dans le camp ou de ceux qui sont dans le camp. Nous ne pouvons pas connaître les motivations, mais nous pouvons voir les actes. Paul, dans 1 Corinthiens 5, on va regarder aussi, nous dit qu'il faut juger à l'intérieur ce qui se passe. Il se passait dans l'église de Corinthe des tas de désordres, de censures qu'il désapprouvait. Et il écrit la lettre de 1 Corinthiens justement pour remettre en ordre les choses dans le camp, dans l'église de Corinthe. Et il leur dit, verset 12 du chapitre 5, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. » Nous avons une responsabilité que nous n'aimons pas souvent prendre en charge, celle de préserver la sainteté de Dieu dans l'Église. Il est vrai que l'idée d'expulser, de rejeter pour toujours quelqu'un qui a été un frère ou qui se dit un frère, c'est quelque chose que nous avons du mal à accepter. Mais je crois que l'ambiguïté que nous voyons à ce niveau de « il ne faut pas juger, mais en même temps il faut juger pour apprécier et reconnaître ce qui est fausse doctrine, ce qui est lourd ravisseur », c'est dans la motivation du jugement. Trop souvent, on juge les autres pour s'élever soi-même. On va dire « Rain, il n'a pas l'arrêt au milieu, alors que moi, j'en ai une grande ». Et on va juger surtout sur les choses qui ne sont pas un problème pour nous. Mais les choses qui sont un problème pour nous, on va pas en parler. Et ça va nous permettre d'abaisser les autres et de nous élever nous-mêmes. Il y a un autre jugement. Paul, dans Galates 6, c'est pas, si vous voulez vous y tourner, Galates 6, 1, sinon je vais le lire. Galates 6 nous dit « Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, donc, dans votre communauté, quelqu'un tombe dans le péché, il est surpris en quelque faute. Vous qui êtes spirituel, ça ne veut pas dire vous qui êtes des super saints, mais vous qui marchez par la grâce de Dieu selon l'Esprit, redressez-le avec un esprit de douceur. » Il ne s'agit pas de condamner méchamment pour exclure. Il faut reprendre avec un esprit de douceur pour redresser, pour réparer, avec un avertissement solennel qu'il est important de prendre en compte. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Il faut avoir un saint respect de la puissance du péché dans nos vies, de la force des tentations, de la force de notre chair, et se méfier du péché, même du péché des autres. Mais l'idée, c'est de juger, pas pour condamner, pour abaisser, mais pour restaurer, pour réparer. Si un mur est bancal, on va utiliser un fil à plomb pour le juger. Alors bien sûr, on peut venir avec le bulldozer et le raser s'il n'est pas droit. Mais en principe, on utilise ça pour le redresser, pour remettre les pierres d'aplomb. Et comment le savoir personnellement ? Quelle est vraiment la motivation de mon cœur ? Est-ce que je juge pour condamner ou est-ce que je juge pour bâtir, pour rebâtir, pour aider, pour fortifier ? Je crois qu'un test très simple, c'est de savoir dans votre cœur si vous êtes prêt à vous investir, à aider personnellement, à passer du temps, à donner des ressources pour aider l'autre dans sa situation de péché. Il faut donc juger pour protéger, pour bâtir, et non pas juger pour s'auto-glorifier, pour se mettre en valeur. Trop souvent, c'est ce que l'on voit dans des églises légalistes où les gens disent « Oh, mais tu n'as pas vu ?» Elle avait des bijoux autour du cou. Oh, moi, Et, parlant de jugement, le premier jugement doit s'appliquer à qui ? À soi, à nous-mêmes. Paul disait dans 1 Corinthiens 11, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Si je prends le temps de voir qu'est-ce que j'ai fait dans la journée, qu'est-ce qui n'est pas plaisant aux yeux de Dieu, alors sa parole, son Esprit Saint me reprenne, et dans l'humilité, je lui demande son aide, je lui demande pardon. Alors j'ai pas besoin d'être jugé par un frère, parce que je me serai jugé moi-même, la parole m'aura jugé, l'Esprit Saint m'aura convaincu de péché, de justice, de jugement. Et pour cela, l'idée, c'est de garder une ardoise, une petite ardoise. Vous savez, des fois, on peut aller chez l'épicier du coin et lui dire « Bon, ben, je vous paierai à la fin de la semaine. » je vous prends un bloc de margarine, 2 œufs, mettez ça sur mon compte. Si on ne paye pas pendant 6 mois, l'ardoise devient lourde à gérer. De la même façon, si chaque jour nous nous confessons devant Dieu, nous nous examinons, alors nous pouvons garder une petite ardoise. Et ça s'appelle, c'est aussi une autre façon d'exprimer cette même idée, c'est de garder une conscience pure. La conscience pure, c'est une notion qui ferait sans doute rire si on en parlait sur un de ces programmes à la télé où les gens se réunissent pour parler de la vie, de la société, des spectacles. Avoir une conscience pure. Et pourtant, la conscience pure, c'est comme une petite boussole. Si elle est sensible, si elle est pure, alors elle est sensible aux moindres variations du bon chemin. Si on laisse les choses s'accumuler, alors là, on dit, bon, c'est pas bien grave, ça, tout le monde le fait. Ou le Seigneur est là pour pardonner. Oh, c'est pas... Et on continue. Et on devient de plus en plus dur, de plus en plus insensible à l'Esprit Saint qui veut nous reprendre. Et l'Esprit Saint nous montre bien souvent, mais on nous parle et on ne l'écoute même plus parce qu'on a tellement de choses qui se sont accumulées que c'est une goutte d'eau de plus. Mais Paul nous disait, il s'exerçait constamment à avoir une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Et ça, c'est une grande source de puissance spirituelle, d'avoir une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Si je pêche, des fois, je sais que j'ai péché, mais j'oublie de venir à Dieu et de confesser mon péché. Il veut que je vienne et que je dise, oui, tu as raison, ce que j'ai fait est un péché. C'est ce que veut dire le mot confesser. Ça veut dire, en grec, dire la même chose que, sous-entendu, agréer avec Dieu que ce que je fais est un péché. Garder une conscience pure. Sinon, c'est un peu comme un... Comme on devient cautérisé, on est plus sensible. Si vous êtes brûlé ou vous avez un endroit, vous perdez la sensibilité. On touche même plus, on ne sait plus si on touche ou si on ne touche pas. Il faut regarder. Et de la même façon, si notre conscience n'est pas pure, alors nous ne sommes pas en mesure d'être sensibles à ce que l'Esprit veut faire dans nos vies. On a à peine commencé le chapitre 5 et voyez tout ce qu'on peut voir dans cette séparation, dans cette exclusion du camp d'il y a si longtemps. On va couvrir tout le chapitre. On va rester ici jusqu'à 4 heures. Non. On va lire versets 5 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites. Lorsqu'un homme ou une femme commettra envers un être humain l'un quelconque des péchés par lequel on se rend infidèle à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera le péché qu'il a commis, restituera ce capital mal acquis en y ajoutant un cinquième et le remettra à celui qui, envers qui il se sera rendu coupable. Si l'homme lésé n'a pas de répondant à qui l'on puisse restituer l'objet mal acquis, la restitution de cet objet mal acquis sera due à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande prélevée consacrée par les Israélites appartiendra au sacrificateur à qui elle sera présentée. Chacun aura pour lui ce qu'il consacre et ce qu'il donne au sacrificateur appartiendra à ce dernier. » Le thème, c'est la purification du camp. D'abord, de garder à l'extérieur ceux qui ont des maladies contagieuses. Et puis là, pour purifier le camp, il fallait établir un système de réparation s'il y avait un délit. La première chose, c'était de confesser le péché, d'admettre, verset 7, il confessera le péché. Si on fait une mauvaise action, il faut l'admettre, il faut la reconnaître. Jean nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Mais encore une fois, il faut confesser nos péchés pour recevoir ce pardon qui nous lave de nos péchés. Il fallait aussi restituer, c'est-à-dire réparer le mal qu'on avait fait. Si on avait pris quelque chose, on le rendait à l'autre. Si on avait volé un objet qu'on le rendait, on n'avait rien perdu en fin de compte. Il fallait une punition, il fallait une espèce d'amende. Et ça représentait 20% de la somme, ou si on avait volé 5 bœufs, il fallait en rendre un de plus, il fallait en rendre 6. Un peu comme l'État qui nous prend 20,6% de TVA régulièrement. Aucun rapport, mais si ce n'est le montant. Il fallait donc confesser, il fallait restituer, il fallait payer une amende. Et ça montrait que c'était une vraie repentance. Parce que dire je m'excuse, d'abord on ne s'excuse pas, on demande qu'on soit excusé, comme disent les instituteurs. La repentance, ce n'est pas dire seulement je suis désolé, la repentance, c'est de réparer le mal qu'on a fait, si c'est possible. Et là, il y avait l'option que peut-être la personne à qui on avait fait du mal n'était plus là. Et à ce moment-là, on devait s'acquitter d'une offrande de propitiation, d'expiation. On offrait un sacrifice à Dieu, et c'était les prêtres qui en bénéficiaient, qui le consommaient ultérieurement. Dieu lui-même est juste pour nous pardonner, on a dit en rappelant les paroles de l'apôtre Jean, mais il est juste parce que Jésus-Christ a payé le prix complet de notre péché. Sa justice est respectée. L'offrande qu'il a faite à la croix en mourant pour nous est parfaite. Elle a été acceptée par la résurrection. C'est lui qui a payé l'amende. Mais il faut bien toujours se rappeler qui a payé l'amende et pourquoi nous pouvons avoir une vraie repentance, nous tourner vers Dieu, lui demander pardon et aller vers nos frères pour restituer, pour demander pardon sincèrement. Ce qui suit est un passage surprenant la première fois qu'on le lit. On va essayer de le lire ensemble rapidement. Je vous demande de garder vos réactions pour la fin. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux Israélites et tu leur diras, si un homme a une femme qui se détourne de lui et lui devient infidèle, si un autre homme a des rapports sexuels avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et s'il est jaloux de sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et s'il est jaloux de sa femme qui ne s'est pas souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en oblation, c'est-à-dire en offrande, pour elle un dixième d'épha, à peu près 3 kilos de farine d'orge. Il n'y reprendra pas d'huile et n'y mettra pas d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une faute. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel, il découvrira la tête de la femme, c'est-à-dire il la fera se présenter les cheveux longs, et déposera entre ses mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur, c'est-à-dire le prêtre, aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera juger la femme et lui dira « Si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es pas détourné pour te souiller, que tu sois innocenté par l'effet de ces eaux amères qui apportent la malédiction. Mais si étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a des rapports sexuels avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation, c'est-à-dire une formule de malédiction, et lui dira que l'Éternel te livre à l'imprécation, à la malédiction, au serment au milieu de ton peuple, que l'Éternel fasse dépérir tes flancs et entrer ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dépérir les flancs. Et la femme dira « Amen, Amen ». Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis il les effacera avec les eaux amères. Il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il fera devant l'Éternel le geste de dédier l'offrande et il la présentera sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme mémorial et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. le grand et long suspense. Quand il aura fait boire les eaux, si elle s'est souillée et si elle a été infidèle à son mari, les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, ses flancs dépériront, et cette femme sera en imprécation au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas souillée et qu'elle soit pure, elle sera innocentée et elle aura une descendance. Telle est la loi sur la jalousie pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille, et pour le cas où un mari saisit d'un esprit de jalousie et jaloux de sa femme. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Et puis c'est pas fini. Le mari sera reconnu innocent, mais la femme portera le poids de sa faute. Alors, j'entendais une petite réaction. Si c'est le contraire, eh oui. Un passage intéressant, non ? Ramasser de l'eau sainte, on ne dit pas pourquoi elle est sainte, si elle a été sanctifiée ou si elle vient d'une source déclarée sainte. On ramasse de la poussière du tabernacle, du sol du tabernacle. On mélange ça. Ça paraît très barbare. Et on se demande pourquoi il y avait un test si terrible. On peut penser au cas où un mari aurait des tendances jalouses et que chaque semaine, quand il voyait sa femme de revenir, allez. Et puis, comme le suggérait Dany, on dirait qu'il y a deux poids, deux mesures. Hein, il y a la femme à qui on fait subir tout ça, à la fantaisie presque de son mari, il suffit de lui dire « Oh, elle a raté le couscous ce soir, allez, pof, je suspecte quelque chose. » En fait, on sait que la Bible, on l'a lu là, dans tous les passages qu'on a lus où il était question d'exclusion, de délit, c'était aussi bien l'homme que la femme. L'adultère était condamné par la mort, et aussi bien l'homme que la femme devait être lapidé. Alors c'est pour ça d'ailleurs que dans le passage de l'évangile de Jean, le chapitre 8, on voit que les pharisiens n'apportent que la femme, ce qui prouve que c'était un coup monté, qu'ils n'étaient pas là pour faire appliquer la loi de Moïse, ils ont dû amener le couple. Ils n'amenaient que la femme parce que c'était un piège pour faire tomber Jésus. Alors la question c'est, pourquoi est-ce qu'on s'acharne ainsi sur la femme ? Surtout dans notre société, on se dit oh, elle a fauté. J'ai une explication qui me satisfait. Je ne sais pas si elle vous satisfera. Je l'ai trouvée chez un auteur chrétien, Old J. Vernon McGee. Et il dit qu'en fait, on comprend ce qui se passe lorsqu'on se rappelle que l'homme et la femme, c'est une image de l'Église et de Christ. Femme, soyez soumise à votre mari comme votre mari, comme l'Église est soumise à Christ, qui est mort pour elle. Et c'est vrai que si on ne peut pas soupçonner Christ d'infidélité, par contre l'Église, son histoire le montre abondamment, son histoire est pleine de raisons d'infidélité, de soupçons, parce que l'Église a été infidèle. Il y a des choses qui ont été commises au nom de l'Église de Dieu, de Christ, qui sont une abomination aux yeux de Christ. Il est question d'offrande de jalousie, et ça voudrait dire que Dieu s'abaisse aussi au niveau de la jalousie humaine. Non, en fait, on sait que Dieu ne s'abaisse pas au niveau du péché de l'homme, parce que la jalousie de l'homme, elle est souvent aveugle, elle est souvent coléreuse, elle est souvent meurtrière. La jalousie de Dieu, parce que Dieu nous dit qu'il est un Dieu jaloux. Mais cette jalousie, ce n'est pas la jalousie des faits divers, c'est la jalousie de l'amour. Dieu nous aime et ne veut pas, il souhaite, il désire ardemment notre amour en retour. Il ne veut pas qu'on lui préfère le monde et tous ses attraits. Et toute l'histoire d'Israël, c'est l'infidélité d'Israël. On peut voir aussi un type d'Israël qui est infidèle à l'Éternel. Jacques nous disait « Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» À être amoureux du monde et de ses valeurs, c'est commettre l'adultère, c'est être infidèle à Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Certains font aussi remarquer que c'était malgré tout, malgré cet aspect très injuste où la femme était la seule à être soumise à cette ce qu'on appelait presque une ordalie, en anglais un ordeal, un test pour voir si elle avait péché ou pas. Quelque part, c'était aussi une protection lorsqu'elle était innocentée. C'est comme si Dieu l'avait innocentée et elle pouvait reprendre sa vie totalement lavée de soupçons. Mais ça nous rappelle aussi que Dieu prend très au sérieux les liens du mariage. Nous vivons dans un monde où le mariage, c'est... Bon, on ne le fait plus, c'est même légal d'être uni sans le mariage, de bénéficier de protection sociale. On est totalement... On peut avoir sa place dans la société en vivant en concubinage, même avec une personne du même sexe, bientôt. Je lisais le journal de la mairie de Nice et il y avait des, vous savez, il y a des petits reportages. Vous avez vu ce petit magazine où on voit 50 photos de Monsieur Jacques Perra et quelques photos des choses qui sont accomplies sous son mandat. Mais notamment, il y avait une photo de jeunes mariés et dessous il y avait un petit commentaire. Je crois que c'était le fils d'un conseiller municipal, donc il y avait c'était un mariage très niçois. Il disait que il leur souhaitait des vœux de bonheur. Il parlait de l'engagement pour la vie de ces deux jeunes mariés, mais pour la vie, c'était entre guillemets. Ils ne pouvaient pas concevoir, dans notre siècle, on ne peut pas concevoir d'un engagement solennel pour la vie jusqu'à ce que la maladie, la mort nous sépare. Il y a une autre façon aussi de regarder ce passage. Le psalmiste David a dit dans le psaume 22:15, qui est un psaume messianique, c'est-à-dire un psaume qui préfigure le sacrifice de la croix, et c'est Jésus qui est décrit dans ce psaume 22. Il dit « Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Quelque part, la mort, la poussière dont il est question dans notre passage du Nombre, on peut la voir comme une préfiguration de la mort. L'eau, ça peut être aussi une préfiguration de la parole de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit qui vient l'utiliser pour nous révéler les réalités de notre vie. Et vous vous souvenez que lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémané, Jésus avait fait cette prière: « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et quelque part, tout ce temps que nous sommes, nous avons pris la... Nous sommes pécheurs et le salaire du péché, c'est la mort. C'est que nous, si nous prenons la coupe de la mort, nous mourrons vraiment. Là, la femme, ce qui était décrit par les flancs qui se desséchaient, c'était comme une maladie qui l'aurait rendue stérile, incapable de porter du fruit. Et de la même façon, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas porter de fruits. Nous sommes stériles. Nous sommes dans le péché. Si nous prenons cette épreuve de la poussière de la mort, sans Christ, nous mourrons. Par contre, un seul a pris cette coupe de la mort. Et il a été trouvé innocent. Amen. Le Christ a pris cette coupe. Il a bu la mort, il a trouvé la victoire, il a été ressuscité. C'est vrai que cette pratique semblait mettre un très grand stress moral, psychologique sur la femme. Mais ça nous montre aussi l'importance que le Seigneur veut pour que nous nous examinions nous-mêmes. Et sachez bien que je me parle à moi-même. Le péché dans nos vies, c'est pas quelque chose de mignon, c'est quelque chose qui est tellement contraire à la nature de Dieu, tellement contraire à ce qu'il veut pour nous. Nous devons prier pour que le Seigneur nous montre. Et une très belle prière, c'est qui devrait être notre prière, on terminera là-dessus, c'est le psaume 139. Le psaume 139 où David disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Notre cœur, Jérémie disait qu'il est infiniment tortueux, nul ne peut le connaître, le Seigneur seul le connaît. C'est lui qui peut nous montrer notre cœur, c'est lui qui peut nous montrer les motivations mauvaises de certaines bonnes actions que nous pouvons avoir envie de faire. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, 139-23, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Présentons-nous devant lui. Laissons, comme la femme devait se présenter devant l'Éternel, on peut demander à Dieu de nous montrer notre cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Bien souvent, on l'a dit, on s'en aperçoit même pas au départ. Quelqu'un a dit qu'une petite erreur de boussole d'un demi-degré, c'est pas grave si on va de Cannes aux îles de Lérins, mais si on va du Havre à New York, on risque de se retrouver à Cuba. Cette petite boussole, notre conscience, la garder pure. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La voie de l'éternité, encore une fois, c'est un chemin étroit. On ne peut pas se permettre de naviguer à vue. On doit demander au Seigneur de nous montrer, de nous guider, de nous convaincre de nos péchés, de nous montrer chaque fois que nous avons des mauvaises idées, de voir que telle réaction qui peut paraître juste d'un point de vue moral, en fait, il y a une motivation de la chair derrière. C'est peut-être pour affirmer nos prérogatives ou ne pas. Et seul le Seigneur peut nous montrer ces choses-là. Seul le Seigneur peut purifier le cœur. Prions. Seigneur, merci pour ton Fils, notre Sauveur, notre Rédempteur, car nous qui sommes finis, qui sommes pécheurs, nous ne pouvons pas nous présenter en ta présence, Seigneur. Mais lui a ouvert le chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et nous ne pouvons pas venir à toi sans passer par lui, par ce chemin qui est le chemin qui mène à la voie de l'éternité, à l'éternité. Seigneur, je confesse que je suis un pécheur, Seigneur. Que ma chair a trop souvent la victoire dans ma vie, que les attraits du monde m'attirent, me détournent parfois de ta volonté, Seigneur, et je t'en demande pardon.